forêt. Comme elle l'est, Monsieur Slim, comme elle l'est. J'adore la forêt. Je me sens bien dans la forêt. C'est le bois, la forêt, pour moi, c'est comme ma seconde maison, monsieur. J'adore la forêt. Et je l'aime à tout moment de l'année. Chaque saison a son charme, elle est bien. J'aime. Et j'aime flâner. Encore maintenant, je pars et je m'en vais. Et puis je regarde ceci, cela. Tout, elle est différente, il y a de tout. Et puis je m'intéresse à tout ce que... à tout ce qui est... J'aime pas tant les bois de sapin. J'aime mieux les feuillus. Mais les feuillus, il faut plutôt aller par là hein, pour les feuillus. Ah, ça, les feuillus. J'aime mieux les feuillus que les bois de sapin. Les bois de sapin. Et puis ma petite enfance, moi, il n'y avait pas de sapin. On ne plantait pas de sapin alors. On ne plantait pas de sapin, il n'y avait pas de sapin. C'était des étendues nues ou c'était des bois de chêne, de haies, de bouleaux, de tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Comme, par exemple, à l'oppidum ici, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'ai connu l'oppidum nu, monsieur, sans rien du tout dessus. Eh bien, chez moi, ici, il y aurait que moi, je couperais même mes sapins, figurez-vous. Si ma belle-fille m'entendait, elle m'arracherait les yeux. Pourtant, je m'entends bien avec mes belles-filles, vous savez. Je m'entends très bien avec mes deux belles-filles. Eh bien, parce que j'ai tous des chênes qui poussent. Mais tous les chênes, je les laisse. Hein. Je ne veux pas qu'on coupe un chêne. L'autre jour, mon fils dit, coupe ta vue, on va t'en couper un là. Eh bien, je n'aime pas ça. Mais la forêt, oui, la poésie de la forêt, elle existe, vous savez. Et vous vous y laissez prendre. Et ça vous enveloppe, n'est-ce pas, comme un parfum. Je ne sais pas vous expliquer ce que je ressens quand je suis... Moi, je suis chez moi dans un bois, que ce soit n'importe lequel. Je me sens bien... comme dans ma maison. Je me sens bien dans le bois. Ah oui. Et que ce soit les bois d'Aulois, que ce soit les bois de Rolly, les bois de Villers-Enfants, tous ces bois-là, n'importe quel bois du moment que c'est un bois. Même les bois de ma petite enfance, je suis allée les revoir. 40 ans après, avec mes fils, eh bien, je me suis retrouvée dans les sentiers. Je me suis retrouvée dans les sentiers. Et j'étais allée même avec un monsieur de Rolly, qui était conservateur du musée. Attendez, monsieur Matteau, vous ne me connaissez pas, non? Musée de Rolly. Eh bien, il faisait des promenades guidées comme ça dans les bois. Et nous étions assez bien de personnes. Et on arrive à une clairière. Une grande clairière. Et il y avait monsieur Ruzette, le baron Ruzette de Merlemont, là, qui était là, entre autres, dedans. Bon, qui s'y connaît, il faut croire. Moi, j'ai de la mémoire. On arrive là, alors il dit, oh, c'est tout ça fait... Oh, dit-il, il doit avoir... Oh, il ne doit pas avoir 100 ans, dit-il, ce monsieur-là, d'un air entendu dans tout le monde. Ah, oh, si, il a plus de 100 ans, je dis. Parce que, je dis, il y a 60 ans, c'était déjà un fameux... Moi, je l'ai connu étant enfant, et j'ai même de vieilles photos de cet arbre. Et maintenant, il était même dégarni des racines, vous savez, il avait poussé dans des anciennes sablonnières, mais il était énorme, et c'était... Et je dis, mes grands-parents... C'était des chasseurs, et ils louaient tous ces chasses-là. Eh bien, c'était où cet arbre était, c'était la clairière où les servantes allaient porter le dîner pour eux manger dehors. Et c'est à cette clairière-là. Et je l'ai reconnue. Et après, par toutes sortes de choses, je dis, et c'était la clairière du failli, du bois des faillis, je dis. C'était dans cette clairière qu'on apportait à manger pour tous les chasseurs, quoi. Et le sapin, le chêne était déjà, c'était un hêtre, c'était pas un chêne, un hêtre. Il était déjà énorme. Énorme, énorme. Et il doit avoir à peu près 100 ans. Après, j'étais bien amie avec, vous savez, il est venu chez moi me demander toutes sortes de choses, se rapportant à ces bois-là. Mais il dit 100 ans. Bien entendu, ça ne pousse plus comme. Mais un arbre, c'est long. C'est là un arbre à pousser. Par exemple, ici, n'est-ce pas, monsieur, en montant pour aller à Doupe, il y avait une grosse roche qui faisait saillie. Vous auriez dit un banc. Et mon mari est photographié assis sur ce banc. Eh bien, mes petits-enfants, ils ne se reconnaissent pas ça. Eh bien, écoute, je dis, vous allez prendre une serpe pour couper les épines et je vais aller vous montrer le fauteuil. Et sur les photos, les petits, quand ils étaient petits, il appelait ça, c'est le fauteuil de petit-papa. Et le lieu dit, c'est toujours le fauteuil de petit papa. Nous sommes allés avec une serre couper les autour Et je dis, il est là, vous, on le trouvera. Et nous sommes arrivés au fauteuil de petit papa. Et alors, j'ai vu un petit désenchantement dans leurs yeux. Ils se figuraient ça. Bien entendu, la pierre était à peu près, disons, les deux tiers de la table. Et ça formait comme un dossier. Mais eux, ils voyaient la photo comme elle était. Eh bien, ils se pensaient quelque chose de plus gros, quoi. Comment Fagnol, un bois qui a beaucoup de charme aussi. Il a même un charme un petit peu spécial. C'est le franc-bois entre Fagnol et Dourbe, venant de Marienbourg, là. Et là, mais ça, monsieur, je voudrais bien y retourner. Je suis allée jusqu'à Fagnol avec mon petit-fils de l'été, à pied. Alors, vous rendez compte, déjà, ça fait déjà 8 kilomètres. Eh bien, nous sommes allés, mais je voudrais aller ailleurs. Mais lui, il ne savait pas, il avait peur. Puis, je suis quand même handicapée. Et, alors, je ne vois que droit devant moi, je ne vois pas sur le côté, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une pierre de sacrifice qu'on appelle ça. Hein? Une pierre de sacrifice. Mais seulement à côté, il y a comme des dolmens couchés. Et mon petit-fils les a vus, il dit, ça doit être, dit-il, comme si c'était un cadran solaire. Seulement, dans la légende de Dame de Vierge, il y a un enchanteur. Et cet enchanteur, il avait un jardin avec des grands dolmens qui renfermait des esprits, qu'il interrogeait pour... Et je me demande, je dis, je voudrais bien aller le revoir, me rendre compte de ce genre de pierre, pour voir si ce n'était pas ça, le jardin de l'enchanteur, quoi, avec ses grosses pierres, parce qu'elles sont mises en distance régulière, dit-il. Mais elles sont couchées. Oui, mais depuis les croisades, elles peuvent être couchées, n'est-ce pas, monsieur? Nous serions couchés aussi depuis les croisades, c'est ça? Et encore plus.
Est-ce que mademoiselle peut donner un coup de téléphone à Bruxelles?
Oui, oui, téléphonez, mademoiselle. Je voudrais... Écoutez, ça, c'est un champ qu'on a coupé avec toutes sortes de... Il faut trier, il y a beaucoup de...
Oui, bien sûr.
De chipotage.
Une petite chanson ou une poésie, vous connaissez?
Qu'est-ce que je vais vous dire comme poésie? Une poésie en français?
Oui, en wallon.
En wallon.
Oui, oui.
Oh, je suis née sur un tas de cailloux. Ça marcherait, cette histoire-là?
Oui, ça, c'est parfait, ça.
Oh, attendez. Où est la tête? Non, elle est par là. Elle est par là.
Oui,
bien sûr. Vous avez 5 secondes?
Oui, oui.
Parce que je ne sais plus. Et figurez-vous que quand j'ai été décorée, on prévient le chef de cabinet du ministre de la Culture, me téléphone et me dit « Simone, on te décore de l'ordre chevalier de l'ordre Léopold. » Eh bien, monsieur, je n'ai rien dit à personne parce que je croyais que c'était une blague. Alors, au festival, on m'a... Mais, quelles lunettes que j'ai, attendez.
Vous en avez mis ici, les lunettes.
Ah, c'est pas encore celui-là. Ah, c'est à ça qu'on voit mes handicaps, voyez-vous.
Bon, hein, mais c'est...
Par là, je ne saurais rien vous dire. Non, c'est pas la peine. Enlève-la le tas de cailloux. C'est du français.
Parfait.
Ça vous fait rien?
Oui, c'est parfait.
Parce que c'est moi, ça. C'est vous le premier qui l'entendrez. Il n'y a personne qui l'aise. Elle est... J'ai donné comme titre un tas de cailloux. Je suis née sur un tas de cailloux, où gîte de gentils lézards gris, un scarabée rose et vermeil, musarte dans l'éclat du soleil. Je vis sur un tas de cailloux, je glisse mes rêves sous un galet. Une souris verte me les a pris, elle les grignote pour faire son nid. Je mourrai sur un tas de cailloux. Un soir d'été, une nuit d'hiver, mon visage enfoui sous la terre, mes mains crispées deviendront pierre. Les lézards gris se cacheront, le scarabée ira au loin, la souris verte croquera ma veste, le vieux corbeau mangera le reste. Et le hibou, ce cher hibou, sonnera le glas de mon trépas. sais pas si ça vous plaît cette histoire-là, mais enfin, c'est un petit peu... Voilà, ça c'est du... C'est mes bêtes. Et le hibou, il est là, hein, toujours. Bon, vous n'êtes pas obligé de le donner, hein, monsieur, c'est vous qui voyez ça. Et ça, c'est de français.
Vous n'avez pas un poème sur les métiers?
Attendez, où est-ce qu'il est ce poème sur les métiers? Aussi, je vais sur les métiers. Ah, ici, tu... Attendez, c'est dans le chose que j'ai fait une chose pour madame Fagnol. Le mot de Dugolieu, non, c'est pas ça. J'épargne mon argent. Hein.
Avec mes feuilles de calendrier, ce n'est pas. Attendez. J'ai tellement de fourbis, je n'ai pas pensé.
Non, attendez, c'est dans celle-ci. Et j'en ai un sur le chevrier. Non, ça, c'est pas un métier, un chevrier.
Pas un métier?
Non. Il y a le chaudronnier.
Ah.
Vous savez ce que c'est? Un type nomade, hein? Un chaudronnier, un qui réparait les couteaux, les fourchettes,
ah, oui,
qui rétamait, quoi. Le mot français, c'est plutôt le rétameur.
C'est ça. Mm-hmm.
Oui. C'est le chaudronnier, les chaudronniers. D'elouer tout dit avec roulotte, et d'être caotte, et d'être clicotte, traîner, pas être faux, mais grêlé, l'issueux, qu'est fait d'espérer. Il a manche pas devant l'église, sur un feu de cherbon qu'elle bise, rougisseux, sur pot de teint, un grand bassin rempli d'estin. Ses femmes tournent d'un village, quand bouillon c'est bon pour le trépage, il y plonge, four à droite main, celle qu'elle rapporte chez les gens. C'est des pés longs, des squemettes, des lousses, des quillis, des fourchettes, et qui coup un sacoué destin, seul mais celle-ci mourut d'elle-même. Les enfants, en sortant de l'école, s'arrêtaient en trouvant ça drôle, et lit aveugle des Français, les faisaient rire en spotchant le patouet. D'un les purvu après la guerre, dangereux et comme bramé sur terre, il y aurait lié ses ochats, les vies alpha et tout dit là. Ça, c'est le chaudronnier. Est-ce que vous avez compris quelque chose?
Oui, très bien.
Là.
Moi, non.
Oh non, ça, non, pardon, c'est pas moi.
Un mot ou deux,
oui.
Mais le reste,
les autres, oui, non, ça c'est pas. C'est autre chose. Non, je regardais si je n'avais pas encore sur les outils, sur les choses.
Sur la forêt, sur un arbre, vous avez un problème.
Attends, oh oui, ça j'en ai certainement. J'en ai certainement. J'en ai pas en français. Puis du coup, j'avais fait des poèmes en français. Automne. C'est la forêt décrite de l'automne. Ça va, ça?
Parfait.
Des vues, les premières janéfouilles sur ces rigides de nos courtis. Les biches de ces temples, les cafouilles, les feijons rivolis sur le tri. Des vues, les fumières sur le village. Tournicoter le rigodon, elle s'est allée dans les nuages, à jusqu'à cet issu ses vents. Des vues, les dérénées arrondes, les roubliées d'après le Saint-Jean. Elles n'iront nées au bout du monde, elles mourront aussi dans le grignadjan. Des vues, le Saint-Cy, chérir le crocheter, chifter ses royaumes, les étus. Les routes solias, pas de carrière, fait je revelure. Les sky des teux. Non, c'est pas ça. Je crois que c'était. Je crois que c'était ça. Je ne sais pas. Monsieur, j'ai même fait des. Oui, Dibou, qu'est-ce que c'est ça? Vicky. Non. Non. Grande Lorraine, c'est pas ça. Ingremé. Non, ça, c'est quand j'allais chercher des plantes sauvages à Ingremé. Non, c'est tout. Madame Lorraine, piquet du jour. Gueule la chipie dans les bichons, la ronde tourne. C'est encore toujours une avec, avec les rondelles, bistoc. Non. Moi, j'en sais rien. Parce que c'est... J'en ai pourtant. Mais dites.
Saint-Riffin. Est-ce que vous connaissez la légende de Saint-Riffin?
Non.
C'est pas la légende de Saint-Riffin. C'est parce qu'on nous l'a raconté. Qui c'est qui l'a raconté?
Ici, c'est ta vierve. Ah oui, c'est ta vierve, non. On vous l'a raconté, la légende de Saint-Riffin.
On n'a pas raconté.
Qui vous l'a raconté?
Brébant.
De vierve.
Oui. Traigne.
De traigne, ah oui, parce que je vois, il n'y a plus de brébant.
C'est un vin qu'on jette à l'eau
à Vierre
et qu'on récupère à Traigne.
Je ne la connaissais pas. Je sais que vous me le dites maintenant, oui, mais non. Ah bon. Ici à Aulois, c'est Chebette. Le jour de. Le jour de l'Alitari.
Oui,
n'est-ce pas
ça?
L'Alitari, donc c'est l'Amicarème. Oui. Le jour de l'Amicarème, on fabrique un énorme, comme on fait partout, quoi, un énorme bonhomme qu'on appelle Chebette. Et on le balade dans tout le village sur un chariot. Et puis alors, quand il a fait le tour du village, on s'arrête au carrefour, là, au quatre chemins, et on lui fait son procès. Il y a un édit, on lui fait un procès, il a été volé du pain au boulanger, il a été prendre un lapin ici, celui-ci. On lui fait un procès de tout ce qu'il a chapardé dans le village, quoi. Il a chapardé un peu partout et on fait son procès. Et quand il a fait son procès, n'est-ce pas, on l'amène sur le pont, on met le feu et on le jette à l'eau. Et alors tout le monde se met à pleurer, hein, sur le pauvre Chebette. Tout le monde pleure sur la mort de Chebette. Et alors il s'en va sur le... Comment dirais-je donc? Il s'en va au gré de l'eau, quoi. Et quelquefois, il y en a qui veulent courir pour tâcher de le rattraper. Mais le courant est là. À l'Alitari, à la Micarème, il y a du courant, n'est-ce pas? Eh bien, comme à Aulois, nous avions un bouc. Pauvre vieux bouc, bien malheureux, vous savez. Et il était à la fin de sa vie. Et c'était encore le tirage au sort ici à Aulois. C'est qu'avait lieu le tirage au sort ici à Aulois-Couvain. Alors le jour du tirage au sort, qui coïncida un jour du carnaval, deux types d'Aulois, le petit Tintin et François, ils l'ont mis des banderoles et des rubans que les conscrits avaient à leur chapeau, tout ça, tous ces banderoles, ils en ont garni tout le bouc. Puis l'on fait tout le tour du village avec un clairon, le bouc, et puis le bonhomme avec un fusil et l'autre qui tenait la gibecière. Ils l'ont fait tout le tour du village et en se lamentant sur le bouc. Et puis ils sont arrivés sur les mines, ici près du Virmain, et ils l'ont tué d'un coup de fusil, notre pauvre bouc. Alors ils l'ont laissé là. Mais vous comprenez, ça ne faisait pas l'affaire des gens. Il n'y avait pas de chantier d'écarissage, ni rien du tout. On est allé se plaindre à la gendarmerie. C'est l'agent qui dire qu'il l'avait fait. C'est la gendarmerie qui a dû se charger d'enterrer notre pauvre bouc. Non,
Sur les métiers,
oui, c'est ça. Vous n'avez pas de légende sur les métiers de... Ou par exemple, le métier du fer qui interviendrait, une histoire avec un forgeron, par exemple, ou une histoire avec des carrières.
Une histoire avec des carrières. Écoutez, des histoires, légendes, je n'en connais pas d'histoires de légendes sur les carrières. Des faits, par exemple, on parle tant maintenant, regardez, avec Sally, on parle d'occupation d'usine, oui. N'est-ce pas? Et que l'on fait, eh bien, je crois qu'Aulois a été précurseur là-dedans. Il y avait une carrière entre Aulois et Vierve, n'est-ce pas? La carrière là-bas, et on ne les payait pas. Et ils étaient mal payés et tout. Les ouvriers se sont fâchés et ils ont dit, nous allons exploiter nous-mêmes. Et on faisait des pavés de grès alors de beaux pavés. Et c'était renommé les pavés de grès d'Aulois. Alors ils faisaient des pavés, ils se sont mis, il était à quatre, il y en avait de Vierve là-dedans et d'Aulois. Ils se sont mis à faire des pavés et à les vendre. Bien entendu, les femmes étaient sans argent, on était sans argent, on était malheureux, alors c'est vrai. Et il fallait attendre tout de même son argent. Puis l'argent est arrivé, il l'avait envoyé. L'argent est arrivé, ça faisait une petite somme. Oh, l'argent est arrivé, on va voir les sous. Alors il était allé mettre des collets, ils ont attrapé deux, trois lièvres. Et puis ici, chez Olga Macabrol, on a fait une énorme fricassée. Dans un chaudron, on a fait une énorme fricassée pour eux. Et puis on a fait monter un tonneau de bière et on dit, on va faire une bonne guindaille. On a des yards. Alors la bonne femme, quand les lapins, les lièvres ont été venus, elle a commencé à fricoter et tout. Et à attendre les hommes. Quand les hommes sont revenus, il n'avait plus un centime. Il avait fait le tour de tous les cafés d'Aulois et de Vierve, il avait tout dépensé. Et il faut penser qu'à ce moment-là, Aulois, il y avait 41 cafés. Et ils ont fait tout le tour des cafés, monsieur. Et il n'avait plus un centime. Et c'est la femme elle-même qui me l'a raconté. Hein. Et moi, j'étais là avec ma casserole. Tu sais bien ce que j'ai fait, dit-elle. Ils ont rentré, Yves, comme des Polonais. Eh bien, dit-elle, je les ai mis tous à la porte. Et mon mari, il s'est couché sur le pavé et il s'est endormi là sur le pavé, dit-elle. Je n'ai pas voulu qu'il rentre, personne ne rentre, dit-elle. Et puis alors qu'elle dit, après, il a encore bien fallu, dit-elle, qu'on les invite le lendemain pour venir manger. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, avec toute cette casserole-là? Voir tout. Non, je ne vois pas de les gens avec les carrières.
Avec les carrières. Et avec les ferrons, avec les gens qui vont dans la mine de fer.
Mais écoutez, fer. Ici, il n'y avait pas de mine. Hein. C'était tous des carrières à ciel ouvert. Hein. Il n'y avait qu'à Vierf qui avait cette carrière de pyrite, n'est-ce pas? Non, je ne vois pas bien, mademoiselle, non.
Et avec des forgerons non plus.
Des forgerons. Qu'est-ce que je raconterais bien avec les forgerons? Qu'est-ce que je raconterais bien avec les forgerons? Je n'en sais rien. Je pense... Non.
Et avec des bûcherons, oui.
Ah, mais les bûcherons...
Là, il y en a plein.
Les bûcherons, monsieur, les bûcherons. Eh bien, quand nous sommes venus habiter ici, il y avait un immense bois là, de sapins, savez-vous, un grand bois, et on les a taillés. Alors, il est venu deux bûcherons. Un, une grande gueule, comme on dit, et l'autre, un homme un peu timide. Hein? Et alors, il taillait mes enfants, qui venaient de la ville, de Bruxelles, qui n'avaient jamais vu ça. Il était tout le temps là. Et il y avait un vieux bonhomme, n'est-ce pas, qui venait avec des sacs ramasser les cendres, parce qu'on taillait les arbres, et au fur et à mesure, on brûlait tous les déchets. Et il y avait un vieux bonhomme qui avait des petits sacs. Eh bien, il venait ramasser tout comme ça. Et ces bonhommes, ils venaient. Alors, il apportait leurs pommes de terre, il apportait des pommes et il les mettait cuire dans le chaud. Mes enfants ont eu tant de plaisir à les manger des pommes. Moi, je leur donnais même des pommes de terre pour eux aller manger avec eux des pommes et des poires là-bas, voyez-vous. Eh bien, celui-là aussi, c'était le grand qui avait... Il connaissait tout et moi, je ne connaissais rien. Nous avons eu des discussions ensemble, question de plantes médicinales. Et alors, il est allé au village. Il buvait beaucoup aussi. Ça paye au café. Et le café dit, il y a l'avocat d'en haut. C'était moi l'avocat d'en haut. Elle croit qu'elle s'y connaît en plantes. Mais elle ne s'y connaît pas du tout, cette industrie. Parce qu'elle en connaît deux, trois. Elle croit qu'elle connaît tout. Il n'était pas question de ça avec, mais on n'a rien discuté pour une plante. Bon. Alors, il a été sans travail, ce bûcheron. Et il a ramassé des plantes médicinales pour un grossiste. Bon, ah, il connaissait tout, il allait tout ramasser. Et il était au café qui pérorait, il avait ramassé des prix, il avait ramassé un peu de tout. Et il pérorait, c'est un peu trivial ce que je vais vous dire, je crois. Je ne sais pas ma manière pourtant. Eh bien, il y en avait qui jouaient aux cartes là. Et un qui dit, oh, il y a une tisane, dit-il, que tu connais certainement pas, qui dit. Je les connais tous, je connais tous. Tu fais comme l'avocat de la Goulette, dit-il. Et elle dit aussi que je ne les connais pas tous. Et vous dites la même chose. Oh, mais nous sommes sûrs que tu ne les connais pas tous. Et il était vexé, il reprend encore un verre. Puis au moment, les autres se levaient pour sortir. Avant de sortir, il dit, dites, messieurs, nous avons toujours été camarades, dit-il. Dites-moi un peu le nom de ce thé que je ne connais pas. Eh bien, c'est ça qui n'est pas beau. Du thé ta gueule. Et tu en as bien besoin. Non, je ne connais pas trop de légendes, vous savez, mademoiselle, dans ce genre-là. Non, je ne retombe pas, ça ne meurt rien, non. Vous avez compris?
Oui, oui.
Oh, c'était le grand Félicien, ça c'était un zigoto aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en train de repenser, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça ne me revient pas. J'ai déjà préparé tout pour cette dame de Bruxelles, hein, pour la télévision. Je lui ai préparé 12 clichés, hein, 12 résumés. Et je lui ai envoyé tantôt. Eh bien, ça m'a quand même tenu. Mais elle savait un peu ce qu'elle voulait, quoi. Mais elle voulait avoir... Qu'est-ce que c'est qui rit? Elle savait ce qu'elle voulait, et en réalité, elle ne le savait pas. Alors elle m'a téléphoné, elle m'a dit, écoutez, qu'elle dit, vous parlez, mais je ne sais pas du tout ce que vous m'avez raconté. Dit-elle, et vous ne pourriez pas me faire des petits résumés? Mais ça, c'était pour elle avoir les résumés prêts, hein? Elle avait bien tout facile. Dit, je suis bien naïf, mais dit, on ne peut pas tout de même avaler des couleuvres, hein? Parce qu'au loin, il y a des couleuvres, hein? Formidables.
Des couloutes.
C'est des couloutes que vous dites, vous autres?
Non, ici.
Des couloutes, oui.
Couloutes.
Des couloutes, des couleuvres. Elles sont belles, on a de belles couleuvres. Pas tant ici. J'en ai, moi, ici. Parce que j'ai un petit jardinier qui vient. Il n'a plus de couleuvres. Hein. Je lui dis non, mais je ne vais pas lui dire qu'il y en a encore. Hein. Il était là au jardin. Et un couillon. Excusez-moi. Il était là et il descendait. Elle était là, bien mise, ma couleuvre. Elle dressait là sa tête comme ça. Elle était bien, elle était au soleil. Elle se sentait vivre. Hein. Il s'est sauvé. Au lieu de rentrer par ici, il a fait le tour comme ça. Et il est reparti. Je me dis, qu'est-ce qu'il lui a pris? Après, il est revenu. Je l'ai vu au village. Elle me dit, vous avez encore des couleuvres? Oh, je dis, c'est ça, t'as eu peur de ma couleuvre? Je dis, non, il n'y a plus de couleuvre. Une couleuvre, ça ne reste pas toujours. Mais c'est la vérité, une couleuvre, ça voyage. Seulement, où il y a les plus belles couleuvres à Auloi? C'est dans les fonds nués, qu'on dit. C'est où on a même fait des étangs qui vont être avant, quelque chose comme ça. Bon, c'est des fonds humides et chauds avec ça. Le soleil plonge. Et il y a des pierres, alors elles sont bien là-dedans. Hein? Elles sont... Et il y a même des vipères, mais ça, nous n'en parlerons pas de vipères. Hein? Ce n'est pas intéressant. Mais les couleuvres. Alors, il y avait un bonhomme d'Auloi, qui vivait bien, mais aussi comme ça. Eh bien, oh, je ne peux pas raconter ça, ce n'est pas raconté à la TV, à la radio. Bon, eh bien, il buvait très, très bien. Il faisait, tous les dimanches, il faisait ses 41... Café d'Auloi. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait 41 cafés alors à Auloi. Et il mettait un chapeau comme Maurice Chevalier. Je les connais comme... Des pantalons à petits carreaux blancs et noirs et un veston en alpaga. Et une canne. Une canne. Un monsieur qui avait pensé à une canne. Et vous ne savez pas pourquoi il avait une canne, monsieur. Il faisait le tour des cafés. C'était de la bière qu'il buvait. Hein. Mais quand on boit... On doit évacuer. Alors chaque café avait sa petite pissotière comme ça, n'est-ce pas? Il fallait évacuer, monsieur. Eh bien, mais quelquefois, vous savez, il chancelait un peu. Son chapeau tombait et c'était dans son chapeau. Alors il avait trouvé un truc pour ne pas avoir d'accident avec son chapeau, n'est-ce pas? Eh bien, quand il devait aller quelque part ici... Eh bien, il mettait son chapeau au bout de sa canne et il tenait son chapeau au bout de sa canne. Bon, et c'était un blagueur, tout ce que vous voulez. Il faisait très chaud, le v'là parti fermé, fauché dans ce coin-là. Il vous trouve, ah, elle était belle, paraît-il, parce que je ne l'ai pas vue, hein. Une couleuvre magnifique. Moi, la celle que j'avais, 1m10 qu'elle mesurait. Et je vous assure qu'elle était belle pour 1m10. Hein. Mais enfin, une couleuvre magnifique. Il faut que j'aille montrer ça au village, ils n'ont jamais vu une couleuvre ici. Alors il est laissé à son bazar, il prend la couleuvre, il la met autour de son cou. Et il passe le cou et la tête ici, dans la manche. Et le voilà revenu, premier café, oh, ici. Une couleuvre ici. Eh bien la couleuvre, elle voulait bouger. Hein. Oui, sortez, c'est quelle couleuvre. Elle est grande, la couleuvre. Oh, dis-tu, 2m50, dis-tu, bon. Alors... La couleuvre, et il la chassait toujours, et il la retirait toujours, et il la tenait, la couleuvre. Il a fait les 41 cafés. Et quand il a eu fini les 41 cafés, n'est-ce pas? Elle mesurait 35 mètres, sa couleur. Ça fait qu'à Aulnois, nous avons eu une couleur de 35 mètres. Et il s'appelait Saucisse. Son surnom, c'était Saucisse. C'est bonhomme. Eh bien, ma saucisse, il a attrapé une couleur de 35 mètres. Et il était là et il tirait toujours. Et chaque fois, on lui demandait, elle est grande, ta saucisse. Ta couleur. Ah oui, et il allongeait toujours. Puis à un moment, il bafouillait. Quand, si vous faisiez 41 cafés, eh bien, 40. Effacez ça, vous savez, monsieur. C'est idiot ce que je vous raconte là. Eh bien, et une couleuvre de 35 mètres. Mais nulle part, il y a des couleuvres de 35 mètres, n'est-ce pas, monsieur? Je vous prends témoin, vous qui vous y connaissez dans ces bêtes-là. Eh bien, 35 mètres.
La couleuvre.
Oui, avec des simplons. Hein. Il n'était pas simplon, dans, si vous voulez, mais il aimait de boire, quoi. Il y avait un simplon, il allait, pour gagner son pain, il allait ramasser des pissenlits. Ça, y a, on a toujours fait beaucoup la cueillette des pissenlits. Et les gens, de les femmes, les veuves de Wagny, qui étaient si pauvres dans le temps, elles venaient à pied avec leur robe cueillir des pissenlits pour aller les revendre. La nuit, elles repartaient à fumer, les vendre sur le marché à fumer à revin. Vous, ça, vous êtes au courant de ça, monsieur. Non. Elles pouvaient. Donc, eh bien, ce